Aujourd'hui, c'est la fête de Euloge de Cordoue, qui a été nommé archevêque de Tolède, qui est mort martyr en 859. Et c'est un saint dont on pourra parler peut-être l'an prochain. Il y a aussi, ça m'a beaucoup amusé, il y a Saint Tiburce. Je me souviens d'un pauvre frère qui s'appelait Tiburce. Comment peut-on donner un nom de profession à un homme qui va enseigner près des jeunes et de lui donner le nom de Tiburce, ce pauvre homme? D'autant plus que c'est un saint fictif, n'est-ce pas, qui apparaît dans une passion, c'est-à-dire dans un récit de la passion de Saint Sébastien. Alors, c'est même pas un saint qui a existé. C'est aussi la fête de Saint Sophron de Jérusalem, de Sainte Rosine. Rosine est un nom qu'on a vu de temps en temps. Mais je préfère vous parler aujourd'hui d'un saint merveilleux, un prêtre de paroisse. Un prêtre de paroisse qui a vécu, vous allez me dire, c'est sans intérêt puisqu'il a vécu il y a si longtemps, mais oui, il a vécu il y a 1750 ans et qui est un homme merveilleux. Un simple prêtre de paroisse, un prêtre ordinaire. Je dédie donc cette émission en particulier à tous nos prêtres de paroisse. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui ont le temps de m'écouter aujourd'hui, car ils y trouveront vraiment des éléments pour leur donner du courage aux heures difficiles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ce saint s'appelle Saint Pionius, ou Saint Pionne, comme on dit. Il est fêté dans le calendrier latin au début de février, je crois le 1er février, mais ça n'a pas de sens, en fait, puisqu'il est mort un 11 mars, le 11 mars de l'an 250. À Smyrne, vous direz que c'est bien loin, je suis bien d'avis que c'est loin. Mais savez-vous qu'il y a des chrétiens qui vivent ici et qui viennent de là? Mais oui, de vieilles familles chrétiennes, en plein pays musulman. Car Smyrne, c'est en Turquie aujourd'hui, c'était l'Asie mineure autrefois. Smyrne s'appelle aujourd'hui Izmir, I-Z-M-I-R. C'est un grand port turc important, hein, de la mer Égée. C'est sur la côte ouest, donc, de l'Asie mineure, de la Turquie, au fond du grand golfe qui s'appelle le golfe de Smyrne, justement. On croit qu'il y a à peu près actuellement 1 million d'habitants dans la région, à Smyrne et la région. C'est assez important, comme vous voyez. C'est donc en l'an 250 que Saint Pionius a été martyrisé. C'était sous l'impulsion de l'empereur Dèce, ou Decius, qui n'a régné que quelques années, de 249 à 251, et c'est donc en plein milieu de son règne, si on peut dire, un règne de persécution abominable, des persécutions qu'il a déclenché, lui, avec rage. Et nous avons, et c'est merveilleux de le dire, les actes de Pionius, c'est-à-dire des fragments autobiographiques, enrichi par des procès-verbaux d'audience, ce sont les documents anciens, remarquables de précision. C'est très important, c'est pas une histoire que je vais vous raconter dans le sens que c'est un conte, une invention. Ce sont des documents précis qui datent de 1750 ans. Et si vous écoutez bien, vous allez voir tout l'élan et toute la netteté de ce simple prêtre de paroisse. Alors, je vous fais donc la lecture de ce texte très ancien, que j'apporterai quelques remarques ici et là, afin de rendre toute la chose plus compréhensible. J'ouvre donc les guillemets. L'apôtre Saint Paul nous exhorte à honorer la mémoire des saints, le rappel de ces existences tout entière livrée à la foi, ne peut qu'affermir les cœurs qui brûlent d'imiter de si grands exemples. Vous savez, on écrivait ça déjà en 250. Hein? Le rappel de ces existences, c'est ce qu'on fait tous les matins ici, hein? À 11 heures et le soir à 5:30, lors de la reprise. Le rappel de ces existences tout entières livrées à la foi ne peut qu'affermir les cœurs qui brûlent d'imiter de si grands exemples. Et le texte continue en disant, plus qu'un autre, le martyr Pionius mérite notre souvenir. Tant qu'il vécut parmi nous, il ramena dans le bon chemin une foule d'égarés et devint le véritable apôtre de notre temps. À la fin, lorsque le Seigneur le rappela par le martyr, il nous laissa ce document qui nous enseigne encore et perpétue son rayonnement parmi nous. C'était sous la persécution de Decius. Le second jour du sixième mois, jour du grand sabbat et anniversaire du bienheureux martyr Polycarpe. Vous savez, Polycarpe, je vous en ai parlé l'autre jour, le 26 février, la cassette est disponible, cet évêque, disciple de Saint Jean l'Évangéliste, qui a subi un martyr phénoménal au même endroit. Donc c'était l'anniversaire du bienheureux martyr Polycarpe. Furent arrêtés le prêtre Pionius, Sabine, une femme, confesseur de la foi, c'était une servante. Une simple femme, quoi. Héroïque. Asclépiade, un homme. Et Macédonia. Et à la fin du martyr, un autre qui s'est fait martyriser, c'est Limnos, prêtre de l'Église catholique, dit le texte ancien. Donc, il y a deux prêtres, deux femmes et un homme. La veille de la fête de Polycarpe, Pionius avait prévu cette arrestation. Il célébrait la vigile avec Sabine et Asclépiade. Et lorsqu'il sut qu'il serait arrêté le lendemain, il prit trois cordes qu'il enroula à son cou et à celui de Sabine et d'Asclépiade. Ils attendirent dans la maison. Il voulait par ce geste avertir ceux qui l'amèneraient qui n'étaient pas de ceux qui acceptent de consommer les viandes sacrifiées aux idoles. Ils verraient au contraire qu'ils étaient prêts à aller tout droit en prison. Parce qu'on essayait de les forcer, les chrétiens, à communier au fond, si vous voulez, dans un certain sens, à communier aux viandes sacrifiées aux idoles. C'est une façon de participer à un sacrifice offert à des dieux qui sont de faux dieux. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que ça peut faire, manger de la viande offerte aux idoles, c'est pas grave. C'était grave dans le sens que c'était une viande devenue sacrée. Et c'était grave dans le sens que c'était une espèce, comme je vous ai dit, de communion. Alors, je reprends la lecture du texte. Ils achevaient leur prière et prenaient le pain sacré, c'est-à-dire la communion, ils célébraient la messe, quoi. Ils achevaient leur prière et prenaient le pain sacré et l'eau, c'était le samedi. Quand Polémon survint, le gardien du temple, avec les hommes qui avaient mission de déceler les chrétiens et de les inciter à sacrifier et à consommer les viandes des idoles, Polémon prit la parole. Vous connaissez certainement le décret de l'empereur qui vous ordonne de sacrifier aux dieux. Alors Pionius répond, le prêtre de paroisse, nous connaissons les commandements de Dieu qui nous ordonne de n'adorer que lui. C'est le premier commandement. Je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour une amusante interview. Je suis tombé là-dessus par hasard de Mme Lescope, une bonne amie, qui a écrit un livre charmant sur sa vie, quoi. Et on la voit sur la couverture à bicyclette. Elle a 80 ans, Mme Lescope. C'est une chrétienne convaincue, Mme Lescope, qui a eu 7 enfants, dont une réalisatrice à Radio-Canada. Et elle était interviewée par Grégory Charles. Grégory Charles disait que... Ah, il avait adoré son livre et elle avait répondu, on adore que Dieu. Ça commençait bien l'entrevue, on adore que Dieu. Elle a bien raison. Alors, on retourne en l'an 250. Là. Polémon dit à Pionius, venez donc sur la grande place, là vous obéirez. Alors Sabine et Asclépiade, qui ont été arrêtés en même temps, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, ont renchéri. Ils ont dit, nous n'obéissons qu'au Dieu vivant. Nous n'obéissons qu'au Dieu vivant. Ils se laissèrent amener sans résistance et sur leur passage, tous ont remarqué qu'ils portaient une corde et l'étrange cortège ameutait les foules et il y eut beaucoup de bousculades. Ils arrivèrent sur la grande place. Alors on les conduisit sous le portique oriental, donc côté est, près de la porte double. La place et les terrasses étaient combles. Des Grecs, des Juifs, des femmes qui n'avaient rien à faire, puisqu'on fêtait le grand sabbat. Certains, pour mieux voir, s'étaient perchés sur des bancs et sur des caisses. Alors on poussa les captifs devant la foule, et Polémon les admonesta, hein, les engueula, quoi. « Vous avez intérêt à vous soumettre, Pionius, comme tout le monde, et à sacrifier si vous voulez éviter les sanctions. » Or, Pionius étendit la main et le visage radieux commença sa défense. Voici ce qu'il a déclaré. Je vous le lis au complet, c'est tellement beau. « Habitants de Smyrne, à qui la beauté de votre ville inspire tant de fierté, et qui vous glorifiez qu'elle est, dit-on, produit Homère, fils de Mélès. Hein? » Homère, c'est l'auteur de l'Iliade, de l'Odyssée, le plus grand poète grec, dit-on. Et vous, les enfants d'Israël, les Juifs, qui êtes mêlés à cette foule, entendez les quelques mots que j'ai à vous dire. J'ai appris que vous vous moquiez des apostats, c'est-à-dire ceux qui fléchissaient devant le martyr et qui reniaient Jésus-Christ. Combien de gens, hein, aujourd'hui renient Jésus-Christ pour l'argent, pour le pouvoir, pour une promotion, pour faire des choses ridicules? Combien? Ce sont des apostats anonymes, si on peut dire. Mais ça, dans ce temps-là, c'était des apostats publics. J'ai appris que vous vous moquiez des apostats et que vous vous divertissiez de voir ces faibles gens sacrifiés sans résistance. Vous, les Grecs, vous devriez pourtant suivre le conseil de votre maître, Homère, quand il vous dit qu'il est sacrilège de rire d'un homme qui meurt. Et vous, les Juifs, Moïse vous donne ce commandement. Si tu vois l'âne de celui qui te est abattu sous sa charge, tu ne passeras pas ton chemin, mais tu l'aideras à se relever. Oui, c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, au chapitre 23. Et Pionius de continuer, vous devriez aussi vous souvenir de Salomon. Quand tombe ton ennemi, ne te réjouis pas, de sa chute ne te gausse pas. C'est dans le livre des Proverbes qu'on attribue à Salomon. Et il dit cette phrase extraordinaire. Pour moi, fidèle à mon maître, Jésus-Christ, je préfère mourir plutôt que de trahir sa parole. Et je m'efforce de garder intact ce que j'ai appris avant de l'enseigner à mon tour. C'est une belle parole pour un prêtre. Ô vous, prêtres qui m'écoutez, je la répète. Pour moi, fidèle à mon maître, je préfère mourir plutôt que de trahir sa parole. Et je m'efforce de garder intact ce que j'ai appris avant de l'enseigner à mon tour. Ça peut s'appliquer à chacun de nous. C'est vraiment une parole qu'on peut appliquer à notre engagement de carême qui est « Convertissez-vous ». Ça nous a été dit le mercredi des cendres quand nous avons reçu les cendres. Pionius continue en disant « En quoi méritons-nous les sarcasmes des Juifs ? Si nous sommes leurs ennemis, comme ils le prétendent, nous sommes d'abord des hommes et des hommes persécutés. Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, c'était terrible pour les Juifs, hein, qui croyaient en un seul Dieu, un pur esprit, et puis les chrétiens surgissaient en disant qu'un homme était Dieu, et qu'il appartenait à la Trinité, que Dieu était trinitaire, et tout ça semblait tellement compliqué, terrible pour les Juifs. Hein. Faut pas trop, je vous le répète, blâmer les Juifs. Hein. Alors Pionius continue, il nous reproche notre liberté de parole, et après, qui parmi eux avons-nous offensé? Qui avons-nous mis à mort? Qui avons-nous poursuivi? Qui avons-nous obligé à sacrifier aux idoles? Croit-il que la peur toute humaine à laquelle plusieurs des nôtres ont succombé soit plus répréhensible que leur propre faute? Il y a aussi loin des Juifs aux apostats que d'une faute sciemment accomplie à une involontaire faiblesse. Qui a forcé des Juifs à s'initier au mystère de Belphégor? Cette divinité, n'est-ce pas, des Moabites, des Ammonites, on se souvient de ça, des Madianites, mais C'était un symbole du soleil que Belphégor. Donc, qui a forcé des Juifs à s'initier au mystère de Belphégor, à consommer des mets, offerts aux morts, à se prostituer avec des filles, des païens, à immoler leurs fils et leurs filles, hein, car vous savez qu'il y a eu des Juifs qui ont immolé leurs fils et leurs filles en dépit de tout ce récit où on voit Isaac qui risque d'être immolé par son père et Dieu l'en empêche pour bien montrer aux Juifs qu'il ne faut pas immoler son fils à Dieu. Et Pionius continue. Qui a forcé les Juifs à murmurer contre Dieu, à calomnier Moïse, à répondre par l'ingratitude à leurs bienfaiteurs, à garder la nostalgie de l'Égypte. Et quand Moïse a gravi la montagne pour recevoir la loi, qui les a poussés à implorer à Aaron, « Faites-nous des dieux, fabriquez-nous un veau d'or !» Que ne firent-ils pas encore? En somme, il accuse les Juifs de leur infidélité. Et si ça peut sembler terrible de la part d'un prêtre catholique, n'oublions pas que les prophètes dans l'Ancien Testament en ont fait autant. Lisez bien les prophètes dans l'Ancien Testament. Pionius continue, il dit, « Il vous égare facilement. Qu'il vous explique donc les livres des juges, des rois, l'Exode et autres pages où éclate leur imposture. Mais eux préfèrent s'intéresser à ceux d'entre nous qui ont sacrifié sans y être contraints, et à cause d'eux, vous condamnez indistinctement tous les chrétiens. » Alors, considérez que nous sommes aujourd'hui sur l'air ou l'espace aplani là, du vaneur, hein, le vaneur qui sépare le grain, là, avec son vent. Un vent, c'est V-A-N, là, c'est une espèce de panier très plat, vous savez, muni de deux anses, là. Ça sert à vanner, à nettoyer le grain, on envoie ça en l'air, hein, on voit ça des fois dans des films. Donc, de la balle et du grain, lequel est le plus lourd? Quand le paysan vient avec son vent, V-A-N, nettoyer l'air, c'est-à-dire l'espace où on fait ça, là. La balle qui est légère s'envole au moindre souffle, le blé reste dans le tamis. Pensez donc à un filet lancé en mer, le butin qu'il ramène est-il tout d'égale valeur? Faites les mêmes réflexions à votre sujet. Il y a le sens de la poésie et le sens des événements ordinaires. Comment nous jugez-vous, tandis que nous marchons au supplice? Nous sommes innocents ou criminels? Si vous nous croyez coupables, ne le devenez-vous pas vous-même en nous traitant ainsi? Et ne vous exposez-vous pas au même châtiment? Mais si nous, croyants inutiles, vous osez persécuter des justes, quel sort espérez-vous pour vous-même? Si le juste a tant de peine à se sauver, alors que va-t-il arriver à l'impie et aux pécheurs? Au cours de mes voyages, continue Pionius, j'ai parcouru toute la Judée. J'ai franchi le Jourdain. J'ai regardé cette terre qui aujourd'hui porte encore les stigmates de la souffrance. Ses habitants étaient des bandits. Ils tuaient leurs hôtes. Ils les chassaient. Ils les traitaient avec mépris de toute équité. J'ai vu la fumée monter encore de cette terre brûlée et réduite en cendres, et jamais privée de ses fruits et de ses sources. J'ai vu la mer morte. Vous qui êtes allé voir la mer morte, pensez à ça, c'est une description très amusante, qui date de 1750 ans. Hein. J'ai vu la mer morte, son eau devenue saumâtre et languissante, tout altérée par la crainte de Dieu, impuissante à nourrir aucun être vivant. J'ai vu un homme y plonger et la mer le repousser à la surface, car vous savez qu'on ne peut pas entrer dans l'eau de la mer morte. Hein? On s'étend et on flotte dessus. C'est très, très curieux. Très curieux. Donc, j'ai vu un homme y plonger et la mer le repousser à la surface, comme si le contact de ce corps lui était intolérable. Ces flots rejettent les hommes, de crainte de devoir encore expier leurs crimes. Alors, il continue en disant, nous affirmons, selon la parole même de Jésus-Christ, que le jugement de Dieu s'accomplira par le feu. Voilà pourquoi nous n'adorons pas vos prétendus dieux et n'inclinons pas notre front devant leur statue d'or. Alors, Pionius a ajouté bien d'autres paroles. C'est le texte très ancien que je vous lis. Et il fut long avant de se taire. Le gardien du temple, ses acolytes et toute la foule écoutaient intensément et il régnait un tel silence que l'on n'entendait pas un souffle. Alors, Pionius proclame encore, « Nous n'adorons pas vos dieux. Nous n'inclinons pas notre front devant des statues d'or. » Alors, on les a amenés au milieu de la place, à ciel ouvert, et des spectateurs ont fait cercle autour d'eux. Alors, Polémon lui disait, « Crois-nous, Pionius, nous t'aimons. » Parce qu'il faut dire que Pionius était un prêtre remarquable, qui était estimé par tout le monde à Smyrne. « Crois-nous, Pionius, nous t'aimons. Bien des qualités te rendent digne de vivre, comme la noblesse de ton caractère ou ta bonté. Puis la vie est belle et la lumière douce à nos regards. » Mais Pionius a répondu, « Moi aussi j'aime la vie. Oui, j'aime la vie. Mais celle dont nous rêvons est plus belle encore. J'aime la lumière, mais ce n'est pas encore la vraie lumière. Oh, tout est fort bien ici-bas, et si nous renonçons aux œuvres de Dieu, n'y voyez ni mépris, ni dégoût. C'est qu'il y a des biens infiniment supérieurs que nous préférons à ceux de ce monde. Ces biens d'aujourd'hui sont parfois bien trompeurs. » Alors, dans la foule, un certain Alexandre, qui était un mauvais esprit, a crié, « Écoute-nous, Pionius. » Et Pionius a répliqué, « Tu ferais mieux toi-même, Alexandre, de m'écouter, car je sais tout ce que tu sais, mais ce que je sais, tu l'ignores. » Alors, Alexandre cherche à le détourner en dérision. Il prend un air faussement naïf. « Et ta corde, à quoi sert-elle ? » Alors, le prêtre Pionius répond, « Elle sert à vous ôter de l'esprit quand nous traversons vos villes, que nous puissions goûter aux viandes des idoles. Elle indique aussi que notre procès est inutile. Nous nous sommes nous-mêmes jugés, et nous nous rendons en prison et non au temple de Némésis. C'est au temple de Némésis qu'on mangeait la viande. » Elle exprime enfin que nous ne sommes pas de la race que l'on traîne de force, et que vous devez nous laisser tranquilles, puisque nous nous sommes liés les premiers. Et de fait, grâce à ces liens, vous ne nous avez pas conduits au pied de vos idoles. Alors Alexandre est resté sans parole, il est resté bouche bée, et les gens recommençaient à le supplier en disant, « Pionius, nous avons rendu notre sentence. » Il leur faisait de sévères remontrances, alors il les menace du jugement futur de Dieu. Puis Alexandre s'écrie, la petite tête folle, « À quoi bon tous ces discours, puisque vous êtes condamnés à mort. » Cependant, le peuple voulait se rassembler dans l'amphithéâtre afin de l'écouter encore, parce qu'on l'aimait, je vous le répète, c'était un prêtre extraordinaire. Alors, inquiets à cause du gouverneur, certains sont venus dire à Polémon, le gardien du temple, « Ne le laisse plus parler, car les gens vont s'amasser dans l'amphithéâtre et ils vont déclencher une émeute, puis ensuite ils vont réclamer du pain. » Alors, le conseil a ému Polémon. « Pionius, si tu ne veux pas sacrifier, rends-toi au moins au temple de Némésis. » Mais ce dernier a répondu, « Tes idoles se passeront fort bien de ma visite. » Il refuse les idoles. Il est fidèle au Christ. Et Polémon insiste, « Laisse-toi donc convaincre. » Et Pionius répond, « Que n'ai-je pu moi-même vous convaincre de devenir chrétien ?» Alors là, des gens éclatent de rire. « Tu ne voudrais quand même pas nous faire brûler vifs, nous aussi, comme les autres ?» Et Pionius répond, « Brûler après la mort est un malheur beaucoup plus grand. » Et Sabine, elle, la laïque, là, souriait, et le gardien du temple et ses hommes lui ont lancé, « Tu ris ?» Et elle a répondu, « Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes chrétiens. Tous ceux qui croient au Christ riront au cœur d'une joie éternelle. » C'est une des plus belles vérités qui soit sortie de la bouche d'une femme à cette époque. Celui qui s'occupe d'essayer de le convertir à la religion dite païenne, n'est-ce pas, de Rome ou de l'Empire romain, c'est Polémon, le gardien du temple. Il s'entête, il dit au prêtre Pionius, « Sacrifie !» Pionius lui répond, « Je suis chrétien. » Et on lui dit, « Quel Dieu adores-tu ? » Et sa réponse est magnifique. « Le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, et nous aussi, les hommes. Il nous comble de tous les biens, et la parole du Christ nous l'a fait connaître. C'est le Dieu amour. » Polémon reprend « Sacrifie au moins à l'empereur. » Il dit « Je ne sacrifie pas un homme, je suis chrétien. » Alors ensuite commence l'interrogatoire, puis un secrétaire qui inscrit tout sur ses tablettes, on les a les textes. « Comment t'appelles-tu ? » Il répond Pionius. « Es-tu chrétien ? » ?»« Oui. » »« De quelle église ? » ?»« catholique, répond-il. C'est en l'an 250. Il ne répond pas simplement chrétien, mais bien catholique. Pensez-y bien. Catholique. Puis il ajoute, il n'en est pas d'autre fondé par le Christ. Il n'en est pas d'autre fondé par le Christ. C'est la parole de ce prêtre Pionius à Smyrne, en Turquie d'aujourd'hui. Un martyr. Alors, Polémon se tourne ensuite vers Sabine. Pionius lui avait demandé de dire qu'elle s'appelait Théodote, car il craignait que sa véritable identité ne la fasse retomber aux mains de cette infâme Polita, son ancienne maîtresse. Je vous avais dit qu'elle était servante. Polita, sous le règne de Gordien, avait vainement tenté de faire abjurer sa servante. Elle l'avait jetée dans un cachot en pleine montagne, où nos frères chrétiens l'avaient secourue en secret. Ils avaient finalement réussi à la délivrer et de Polita et de sa geôle. Et elle passait presque tout son temps auprès de Pionius, avant d'être arrêtée avec lui, sous cette dernière persécution de l'empereur Dèce. Alors Polémon dit, quel est ton nom? Et Sabine répond, Théodote. Es-tu chrétienne? Oui, je suis chrétienne. De quelle église? De l'église catholique. Qui adores-tu? Le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre et nous tous, et que Jésus-Christ, son Verbe, nous a fait connaître. Ce fut ensuite le tour d'Asclépiade, ta ville, l'eau, le troisième. Comment t'appelles-tu? Il répond, Asclépiade, es-tu chrétien? Oui. De quelle église? L'église catholique. Qui adores-tu? Jésus-Christ. Tiens, c'en est un autre. Au lieu de dire Dieu, il dit Jésus-Christ. Alors il répond, c'est très intéressant, non, c'est le même que celui que mes amis ont confessé. Un seul Dieu. Jésus et son Père et l'Esprit-Saint, c'est un seul Dieu. L'interrogatoire terminé, on les conduisait en prison, une foule énorme les suivait. Ils ont envahi la place. Certains, regardant Pionius, s'étonnaient. Lui qui est d'habitude si pâle, d'où lui vient ce visage de feu? Et Sabine le tenait par son vêtement, pour ne pas être entraîné par cette marée humaine. Alors une voix qui crie, s'ils ne sacrifient pas tous, qu'on les rue donc de coups. Et Polémon réplique, impossible, les faisceaux ne nous précèdent pas. Nous n'avons donc pas le droit. Il y avait des règlements très sévères, très stricts, qui sont à l'avantage de cette Rome païenne. Il y a là, chose étrange, même si on tue, une façon de tuer qui est pleine de respect quand même. Un homme ricane et dit, regardez ce gringalet. Lui, il va sacrifier. Il parlait d'Asclépiade. Et Pionius lui dit, tu mens, il ne le fera pas. D'autres répliquent, on en a bien vu qui sacrifiait. Et Pionius lui dit, chacun agit selon sa conscience. Cela ne me regarde pas. Moi, je m'appelle Pionius. En d'autres termes, c'est un prêtre qui a du respect même pour les apostats. Il ne juge pas. Il laisse ça à Dieu. Alors certains murmurent, quelle admirable religion nous est ici révélé. Et Pionius, lui, ce prêtre, répond, celle qui vous est plus familière vous laisse souffrir de la faim, des deuils et des misères de ce monde. C'est vrai que la religion païenne, l'espèce de paganisme, laisse souffrir de cette faim intérieure, souffre des deuils parce que la mort est incompréhensible, il n'y a pas d'éternité, et les misères de ce monde n'ont aucun sens. Alors quelqu'un lui dit, « Mais toi aussi, comme nous, tu as faim. »« Oui, dit Pionius, mais l'espérance que j'ai en Dieu rend légère la souffrance. Hein? »« L'espérance que j'ai en Dieu rend légère la souffrance. » Alors la foule les entoure, à les étouffer. On eut toutes sortes de peines à les en arracher, à les remettre aux geôliers qui les ont enfermés dans la prison. Alors là, ils ont trouvé un prêtre de l'Église catholique, lui aussi incarcéré, du nom de Limnos, je vous en avais parlé au début. Il y avait aussi Macédonia, que je vous avais mentionné, une villageoise de Carina, et un montaniste, Eutychianos. Un montaniste, c'est quelqu'un qui est partisan d'une hérésie du IIe siècle, qui a été établi par Montanus, qui voulait remplacer, comme certains voudraient le faire aujourd'hui, et c'est tellement insensé, voudrait remplacer la hiérarchie ecclésiastique, les évêques, par des prophètes inspirés. C'est très beau en principe, c'est très répandu aujourd'hui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est évident, on ne peut pas. Car des prophètes inspirés, on en entend à la télévision qui se disent inspirés. Oh Dieu! Ce qu'ils disent est insensé souvent. Alors ils logeaient tous dans la même cellule et les geôliers s'étonnaient que Pionius, le prêtre et ses compagnons, n'acceptent pas les dons des fidèles. Il dit, j'ai connu de pires épreuves sans être à charge à personne, leur explique Pionius. Pourquoi commencerais-je aujourd'hui? Alors cette parole a exaspéré les gardiens, parce qu'ils profitaient de la générosité des visiteurs, eux autres, hein. Ils en arrachaient un petit peu, ils en prenaient un petit morceau. Et de rage, ils les ont jetés dans un cachot encore plus secret, où ils n'étaient plus l'objet d'aucune sorte de gentillesse. Mais eux rendaient gloire à Dieu. Ils y restaient calmes. Ils observaient vis-à-vis de leurs gardiens leur courtoisie habituelle. Ça s'est vu beaucoup durant les persécutions en régime communiste ou en régime nazi, où on a dit que beaucoup de chrétiens, tant catholiques qu'orthodoxes ou luthériens ou autres, chantaient des cantiques, priaient ensemble, affrontaient la mort avec une foi étonnante. Alors, pris de remords, le chef de la prison a voulu leur faire réintégrer leur première cellule, faire remonter où il faisait moins froid et moins humide. Mais eux restèrent où ils étaient. « Gloire soit au Seigneur, disait-il, cette sanction a tourné à notre avantage. » Parce qu'ils pouvaient, en effet, dit le texte, s'entretenir à leur aise et prier jour et nuit. En somme, ils étaient en allant plus creux, comme dans un monastère, si on peut dire. Cependant, plusieurs païens venaient les visiter dans leur prison, espérant les convertir. Mais les réponses qu'ils entendaient les décontenançaient. Même de leurs frères chrétiens, les visitèrent, qui avaient abjuré sous la contrainte. Quand on y pense, ça arrive souvent que d'anciens chrétiens essaient de nous convaincre qu'il est mieux de ne pas croire au Christ. C'est toujours comme ça. Hein? Même quand on fait des choses chrétiennes, de dévouement, de don de soi. Quand j'ai adopté mon fils, combien de gens m'ont dit... Les chrétiens, même pratiquants, vous n'êtes pas obligés. Dieu ne vous en demande pas tant. Vous allez vous faire mourir, etc., etc. Alors, ils pleuraient parfois. Et le temps ne faisait que redoubler leur tristesse. Pionius pleurait avec eux. Il disait, « C'est pour moi un nouveau supplice. Et j'ai le cœur déchiré quand je vois les perles de l'Église piétinées par les pourceaux. Et les étoiles du ciel jetées à terre. » Par la queue du dragon. C'est une vision très surréaliste. Il ajoute la vigne que Dieu planta de sa main, saccagée par le sanglier, et tous les passants dérobés ses grappes. Mes enfants, pour qui je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Quel prêtre extraordinaire! Ce prêtre qui a conscience que il est comme une mère, hein? Les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Il ajoute, mes si tendres amis, vous avez pris de rudes sentiers. C'est maintenant que Suzanne est tentée par des vieillards impies. Vous savez l'histoire de Suzanne et les vieillards, je ne la raconte pas. C'est maintenant qu'il dénude sa grâce et sa beauté pour en repaître leurs yeux et la perdre par leurs mensonges. C'est maintenant que l'on a faim et soif, non pas de pain et d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Toutes les jeunes filles sont-elles assoupies, dorment-elles, comme elles se vérifient la parole du Seigneur Jésus? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ajoute, j'apprends que chacun trahit son prochain, et que cette autre parole s'accomplit. Le frère livrera son frère à la mort. Ainsi dans l'Évangile de Saint-Marc, au chapitre 13. Oui, Satan a obtenu de nous passer au crible comme le blé. Il ajoute ces paroles bouleversantes. Ça date de 1750 ans, je vous le répète. Le sel s'est affadi. On l'a jeté, et la foule l'a piétiné. Mais n'allez pas croire, mes petits-enfants, que le Seigneur a perdu sa puissance. C'est nous qui avons défailli. C'est nous qui avons défailli. Comme on se plaint de l'état du christianisme en Occident aujourd'hui, et on regarde, c'est la faute des évêques, c'est la faute des prêtres, c'est la faute du pape, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. J'aime mieux écouter ce saint qui a parlé il y a 1750 ans et qui nous dit « N'allez pas croire que le Seigneur a perdu sa puissance. C'est nous qui avons défailli. » Et là, il cite Isaïe qui fait parler Dieu, ou plutôt Dieu parle par le prophète Isaïe, quoi. « Ma main faiblit-elle dans le secours ? Mon oreille se lasse-t-elle de vous entendre ? Mais entre vous et moi, votre Dieu se dresse... entre vous et moi, votre Dieu, se dresse le mur de vos iniquités. » Il est étonnant, ce prêtre de paroisse. Nous nous sommes mal conduits, allant parfois jusqu'à la dérision de Dieu. Que de fautes parmi nous commises ! Il ajoute, nous nous sommes mordus les uns les autres, nous nous sommes accusés mutuellement, nous nous sommes entre-déchirés, quand notre justice devint infiniment dépasser celle des scribes et des pharisiens. Alors Polémon, là, le gardien du temple, et Théophile, un officier de cavalerie, se présentent donc escortés de bourreaux et d'une grande foule. Là, ils disent aux martyrs, votre évêque, Euctémon, vient de sacrifier. Alors obéissez, vous aussi. Lépide et Euctémon vous réclame au temple de Némésis. Alors le prêtre Pionius réplique, « Ceux qui sont incarcérés attendent d'ordinaire l'arrivée du proconsul. D'où vient que vous exercez ces fonctions ?» Oui, oui, il connaît tous les règlements. Hein? Il y a des lois, comme je vous le rappelle tout à l'heure. Hein? Alors, Polémon et Théophile se retirent en maugréant, mais ils reviennent à la charge avec les bourreaux, avec des badauds aussi. Alors Théophile, l'officier de cavalerie, essaya de ruser, hein? C'est tout le vieux texte que je vous lis là. Le proconsul nous a envoyé une garde pour vous transférer à Éphèse. Alors Pionius lui rétorque que la garde envoyée vienne nous prendre. C'est elle qui doit le faire. L'officier crie alors, un homme de mon grade n'est pas pris au sérieux, soit. Mais que cela te plaise ou non, c'est moi le chef. Alors il se jette sur lui, le serre à la gorge jusqu'à l'étrangler, le remet au bourreau à moitié étouffé. Alors on amène alors sur la grande place les autres prisonniers, dont Sabine, la servante. Là. Et à pleine voix, il crie, « Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens !» Et il se roule par terre pour ne pas être conduit au temple, car ils veulent pas offrir au Dieu, à Némésis. Alors là, les bourreaux avaient saisi Pionius par la tête, sans pouvoir le maîtriser tant il était replié sur lui-même. Un peu comme les manifestants qu'on voit hein, à la télévision, là, qui se replient sur eux-mêmes, se recroquevillent, leur décochant des coups de pied dans les côtes, les bras et les jambes. Alors ils finirent cependant par l'amener, malgré ses cris, et ils le déposèrent au pied de l'autel où Euctémon, l'évêque, là, qui venait d'apostasier, était encore planté. Lépide les interrogea. « Pourquoi ne sacrifiez-vous pas, Pionius ?» Il répond, « Parce que nous sommes chrétiens. » « Quel Dieu adorez-vous ? » ?»« Celui qui a fait le ciel, la terre, l'océan et tout ce qu'ils contiennent. » »« Ce Dieu est celui qui s'est fait mettre en croix ?» Alors il répond, « C'est celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. » Alors là, les magistrats éclatent de rire. Un peu comme à la télévision quand on voyait autrefois des émissions des cyniques, toutes ces choses-là, ces émissions qui riaient des chrétiens. Lépide couvrit Pionius d'imprécations, mais le martyr crie « Respectez nos convictions, pratiquez la justice. » Je dirais ça à tous les réalisateurs de télévision, j'étais réalisateur de télévision pendant 30 ans. « Respectez nos convictions, pratiquez la justice. » Essayez de comprendre des gens qui ne sont pas moins hommes que vous. Observez au moins vos lois. Vous vous châtiez parce que nous sommes des rebelles. Vous nous châtiez parce que nous sommes des rebelles. Mais vous n'êtes pas plus disciplinés. On vous a chargé de punir, pas de forcer les consciences. Alors un assistant, Rufinus, qui est un orateur de talent, interpelle. Et il dit, « Silence, Pionius, arrête cette comédie. » Alors finalement, les dialogues se continuent, alors on les remet en prison. Pionius était à la porte quand un des bourreaux lui assène un tel coup sur la tête qu'il se blesse lui-même et la victime reste quand même impavide. Les mains et le flanc de cette brute là, qui l'avait frappé enflent au point de lui couper la respiration. Et une fois entrés, les martyrs ont rendu gloire à Dieu d'être restés inébranlables en confessant le nom du Christ. Ni leur ennemi, ni l'évêque Euctémon qui avait apostasié n'avaient eu raison d'eux. Ils se répandirent en louanges et en prières. Et s'encourageant les uns les autres, ils surent, à peu après, que l'évêque Euctémon avait espéré les faire abjurer et qu'il avait lui-même apporté un agneau au temple de Némésis. Il l'avait fait rôtir, en avait goûté, mais avait dû le rapporter presque entier chez lui. En somme, la séance de son abjuration l'avait couvert de ridicule. Et il portait une couronne au front, il avait juré par la fortune de l'empereur et par les Némésis qu'il n'était pas chrétien et qu'il ne se déroberait pas, comme certains, aux obligations qui surviendraient à la suite de son apostasie. Quel étrange évêque! Et sur ces entrefaites, mais le proconsul est arrivé à Smyrne et Pionius a confessé sa foi devant lui. Là, les secrétaires prenaient note de tout ce que je vous lis. Hein. C'était le 11 mars. Pionius se tenait au bas de la tribune et le proconsul l'a interrogé, lui dit « Quel est ton nom ?» Il répond « Pionius ». « Sacrifies-tu ? » Il dit « Non. » « Quelle est ta religion ou ta secte ?» Il dit « Celle des catholiques. » L'autre dit « Catholique, que veux-tu dire ?» Il dit « Je suis prêtre de l'Église catholique. » Alors, il lui dit « Tu étais le maître de ceux-ci ?» Il dit « Oui, j'enseignais. » « Professeur de sottise. » Il dit « Non, de foi. » Alors, il dit « Quelle foi ?» La foi en Dieu, le Père qui a créé le monde. Alors, il lui dit « Sacrifie. » Et le prêtre répond « Jamais. » Ma prière ne connaît que Dieu. Alors on lui dit, tous nous adorons les dieux, le ciel et les divinités qui peuplent le ciel. Sacrifie donc au vent si tu préfères. Et Pionius lui dit, le vent ne m'intéresse pas, mais c'est lui qui l'a créé avec le ciel et tout ce qu'il renferme. Dis-moi donc, qui est ce maître d'œuvre? Et c'est très beau, il répond, il est indicible. Alors le vrai Dieu, c'est Zeus. Qui est au ciel et règne sur tous les dieux, on lui dit-on. Alors il fait étendre le martyr sur le chevalet, Pionius reste silencieux. On lui dit, tu sacrifies, il dit non. Alors là, des ongles de fer s'enfoncent dans ses chairs. Là, le proconsul insiste, il lui dit, abjure ta foi, à quoi te sert tant de folie? Et le prêtre de paroisse qui répond, je ne suis pas fou, je crains le Dieu vivant. Alors une foule de gens ont sacrifié, ils sont vivants, c'est la sagesse. Il répond, je ne sacrifierai pas. On lui dit, pourquoi courir à la mort? Il dit, je ne cours pas à la mort, mais à la vie. Alors on lui répond, courir à la mort n'est pas une prouesse. Quand pour quelques pièces d'argent nous envoyons de pauvres diables affronter les fauves, eux aussi méprisent la mort. Tu es de leur espèce, mais enfin, si tu es pressé de mourir, le bûcher t'attend. Alors du haut de la tribune, on lui lit la sentence en latin. Pionius a avoué qu'il était chrétien, nous le condamnons à être brûlé vif. Et là, d'un pas rapide, soutenu par la vigueur de sa foi, le prêtre Pionius, martyr, se rend vers le stand. Un secrétaire l'accompagnait pour tout, prendre note de tout. C'est comme ça qu'on a les détails. Et de lui-même, il ôte ses vêtements. La vue de son corps, chaste, pur, de prêtre, le remplit de joie. Il lève les yeux au ciel. Il remercie celui qui lui avait conservé cette beauté. Cette beauté, dit le texte. Puis, il s'étendit sur la croix, et il pria lui-même, le soldat, d'enfoncer les clous. Et quand ce fut fait, l'agent de l'État est revenu à la charge. « Te ravises-tu? Nous te déclouons. » Il réfléchit un instant. « Je suis impatient de mourir afin de me réveiller plus vite. » Il vous parlait évidemment de la résurrection des morts. Alors on dresse d'abord sa croix, puis celle d'un prêtre de la secte des Marcionites. C'est une hérésie du deuxième siècle, ce qui voyait un dieu du mal, un dieu du bien, puis un dieu créateur. Ce prêtre s'appelait Maître d'Or. Pionius était à droite, Maître d'Or à gauche, et tous deux regardaient vers l'Orient. Alors on apporta du bois et l'on disposa en fagot autour des condamnés. Et comme Pionius fermait les yeux, bien la foule crut qu'il venait de mourir, mais il priait en silence. Et quand il eut fini, il les rouvrit, et déjà les flammes montaient. Et là, le visage émerveillé, il murmura un dernier amen et dit, « Seigneur, reçois mon esprit. » Alors, il y a eu un léger râle, nous raconte le secrétaire, là, et il expira doucement. Il avait remis avec confiance son âme au Père, qui lui a promis de garder tout sang et toute vie injustement immolée. Garder tout sang, ça veut dire toute âme, je vous le rappelle dans la symbolique. Le sang, c'est l'âme. Ainsi, le bienheureux prêtre Pienius acheva-t-il sa vie, qui fut sans tache, sans opprobre et sans ombre. Il garda, dit le texte, son esprit sans cesse tendu vers le Dieu Tout-Puissant et vers le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une très très belle définition, très ancienne, c'est en somme, du prêtre catholique, du prêtre à l'autel, du prêtre qui nous donne les sacrements. Ce prêtre, on dit le texte, garda son esprit sans cesse tendu vers le Dieu Tout-Puissant, et vers le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ notre Seigneur. Il fut jugé digne de cette fin sublime, il accomplit le grand combat, franchit le seuil étroit et parvint dans l'immensité de la lumière éternelle. C'est le vieux texte que je vous lis. Je continue. Son corps lui-même fut paré d'une sorte de couronne, car lorsque le feu se fut éteint, tous les assistants, nous vîmes ce corps qui était celui d'un athlète au faîte de sa gloire. Ses oreilles n'étaient pas déformées. De légers flocons de barbe couraient sur le menton, ses cheveux étaient soigneusement rangés. Un bonheur indicible brillait sur son visage. Cette vue fortifia la foi des chrétiens et bouleversa les incroyants qui s'en retournaient frappés de terreur. L'événement s'est déroulé sous le consulat de Julius Proclus Quintilier en Asie mineure. Sous le deuxième consulat de l'empereur Mésius Quintus Trajan Décius Sébaste, l'empereur Dès, et sous celui de Vettius Gratus le 11 mars, selon le calendrier romain, le 19e jour du 6e mois chez les Asiates, un samedi à la 10e heure, et selon nous, sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez peut-être trouvé fastidieux ce long texte. Il n'en demeure pas moins qu'il est très très beau. Je vous le rappelle, c'est un des textes des fondements de notre foi, où un prêtre courageux, magnifique, aimé de tous dans toute la région, la ville était déjà très grande, était apprécié même des païens, qui l'ont mis à mort à cause de l'empereur Dès, qui avait déclenché cette persécution terrible. Et je lis dans l'apologétique des martyrs, « Les tourments ne sont point essentiels aux martyrs, c'est la mort et la persévérance finale qui importent. On ne regarde pas la longueur du combat, seul compte l'ultime victoire. » Si vous aviez la moindre idée des récompenses promises aux chrétiens qui persévèrent jusqu'à la fin, vous renonceriez à tous les avantages pour atteindre la persévérance finale. C'est un très, 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 très vieux texte qui date de plus de 1000 ans. Si vous aviez la moindre idée des récompenses promises aux chrétiens qui persévèrent jusqu'à la fin, vous renonceriez à tous les avantages pour atteindre la persévérance finale. »